Bonjour Geneviève, on t'invite pour ton livre Quotidien politique. C'est un livre qui nous a beaucoup plu. Et puis c'est un livre où il y a, à l'intérieur il y a beaucoup de livres et du coup il y a plein de choses intéressantes à essayer de déployer. Dans ce livre, tu essayes de tracer un peu des lignes entre un corpus théorique avec plein d'auteurs différents et des pratiques. Les pratiques, elles sont issues de ton enquête, de ta longue enquête de terrain que tu as menée pendant une bonne dizaine d'années sur des personnes qui ont décidé de faire sécession avec ce monde-là. Et cette enquête, elle est nourrie par tout un corpus de ce que tu appelles les féministes de la subsistance, et qui permettent, ce corpus, il permet de tracer une interprétation de l'émergence du capitalisme, d'une émergence genrée du capitalisme, et de faire des contre-récits centrés sur l'enjeu du travail de la subsistance, centrés aussi sur notre dépossession, qui essayent d'expliquer notre dépossession du rapport à notre monde matériel et à notre quotidien. Cette dépossession, elle va s'accompagner aussi d'une perte de savoir vernaculaire et d'une perte de prise en fait assez générale sur notre quotidien. Et donc c'est pour cet ensemble de choses qui nous a vraiment intéressés. Et donc voilà, donc on est heureux de t'avoir ce soir avec nous.
Merci. Et on se demandait peut-être pour commencer si tu pourrais revenir un peu sur la genèse de ce livre, nous expliquer parce qu'effectivement, comme tu le disais, il est fait de plusieurs livres en quelque sorte et ça s'irrigue un peu mutuellement. Donc on se demandait un peu comment cette enquête de 10 ans, dont la restitution finalement occupera un autre livre que tu annonces, mais s'articule, parce qu'elle est quand même présente aussi bien sûr dans le livre, à ce corpus, et peut-être aussi un peu comment tu as rencontré ce corpus d'autrices féministes qui permettent la relecture dont on parlait. Donc on se demandait un peu comment c'était né, comment les deux s'étaient articulés pour toi, et peut-être même un peu en amont, un peu comment tu t'étais déplacé, puisque tes premiers travaux portent sur le féminisme, en tout cas la violence, les femmes et la violence, l'accès à la violence légale, et plus généralement aussi non légale, sinon je pense à ce livre sur la violence des femmes. Comment t'es passé aussi à autre chose ?
Y a l'idée de partir de l'État et puis d'aller à l'autre bout en se disant, le non-État, d'un côté, je garde la question du genre et du travail entre ces deux décennies de recherche, mais il y a aussi des autrices en fait qui sont déterminantes pour notamment Françoise Daubonne en fait, parce que c'est quelqu'un qui a à la fois pensé les Amazones, qui m'ont intéressée dans le bouquin Penser la violence des femmes qu'on a fait avec Colleen Cardy, et de l'autre côté elle pense aussi l'écologie, ces soldats paysannes en fait, comme elle dit, pour définir ces Amazones, et la question du genre, de l'emprise sur la terre, de l'emprise sur la sexualité des femmes et la domination patriarcale. Du coup, en partant de la violence des femmes, par Françoise Daubonne, j'en arrive à la question écologique. Donc ça, c'est des passerelles comme ça qui se font, qui fait que c'est une autrice qui pense tout ça ensemble. Et comment même les femmes peuvent se défendre contre la violence patriarcale qui leur est imposée. Donc ça fait une passerelle. Et il y a aussi que la question de la féminisation de la police, donc de la boîte noire de l'État, ne change pas. Enfin voilà, ne change pas la structure même de l'État. Et donc quand on a fait ce processus d'études depuis les années 30, comment c'est hyper long d'arriver jusqu'à la féminisation de ce segment de l'État pour arriver à conclure à une virilisation collective de l'ensemble de l'institution, y compris des femmes qui y rentrent, la question se posait du coup, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes d'avoir le pouvoir de violence ? Est-ce que c'est du coup l'alignement dans des démocraties militaires ? Est-ce que c'est ce genre d'égalité-là dont il est question ? Et quid de toutes les autres, de ce que les féministes ont pu dire et qui a pu être ringardisé d'une certaine matière, qui disait, ouais, le pacifisme, les valeurs dites féminines, mais qui doivent être, qui sont absolument pas féminines, qui sont construites comme telles, mais qui pourraient donner lieu à d'autres organisations sociales. Et du coup, ça m'a permis de voir le lien entre anarchisme, féminisme, micro-société, et du coup de sortir vraiment, d'aller au plus loin en fait des villes, dans les campagnes. Et donc c'est là que je suis arrivée aux alternatives en fait écologiques, en me disant qu'est-ce qui se passe, comment on fait, comment on s'organise quand on s'établit au plus loin de l'État. Et là, c'est plutôt des gens que je rencontre. Je vais de région enfin chaque fois j'ai un contact, puis à partir de là, par boule de neige, il y a plein de personnes que j'essaie de circonscrire par l'idée que ce serait des formes d'écologie radicale, mais il y a toujours quelqu'un de plus radical que soi. Donc en fait, sur un rayon assez proche d'une vingtaine de kilomètres carrés, je me retrouve à chaque fois avec 20, 30, 40 personnes qui se recommandent les unes les autres. Et donc ça définit des gens qui ont une emprise territoriale assez cohérente sur des territoires. Et dedans, il y a des sages-femmes alternatives, il y a des herboristes, il y a des cercles aussi de femmes, par qui il y a des remises en question de la division du travail aussi. Il y a des groupes aussi. Donc il n'y a pas forcément des féminismes totalement affirmés, parce que je suis allée exprès dans les endroits les plus lointains de la capitale, y compris sur le plan géographique, mais aussi sur le plan des relations intellectuelles. Je ne voulais pas de stars, je ne voulais pas de gens qui fassent la navette, mais vraiment des personnes qui étaient dans une écologie pratique extrêmement affirmée, et donc qui n'étaient pas au fait nécessairement de toutes les partition militante qui nous agite ici, enfin moi qui habite en région parisienne. Et du coup, ça m'a permis de voir quelque chose que j'ai qualifié d'écoféminisme vernaculaire en fait. Et en même temps, cette longue recherche, donc je peux pas me dire je vais prendre les lectures des personnes sur lesquelles j'enquête et ensuite je vais en faire un bouquin. C'est autre chose, c'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait des références, et en même temps je me dis mais qu'est-ce que... Il faut que je trouve aussi les théories qui correspondent à ce que je vois. Et c'est là que j'ai commencé à me faire une sorte de famille intellectuelle, un peu hétéroclite. Et par Françoise Daubonne, j'attrape l'écoféminisme. Puis je tombe sur Illich, parce que quand même le terme de convivialité revient. Donc je me mets à lire tout Illich, je découvre qu'il a lu, il a écrit un énorme texte qui a été traduit en français, Le genre vernaculaire, qui s'appelle Gender. Et là je suis un peu sidérée en fait par ce texte qui est très peu connu en France. Et puis Lefebvre, Henri Lefebvre, que je lis aussi très vite, et là je me lance parce que je voulais, comme la question c'est l'écologie pratique, je me dis c'est la question de la quotidienneté qui est au centre, donc faut lire le livre. Et donc là je me lis tout Lefebvre, qui est un livre, tout Lefebvre sur la quotidienneté, c'est je ne sais combien d'opus, c'est labyrinthique, c'est à la limite de la poésie philosophique, enfin je sais pas comment expliquer, tellement il ouvre des tiroirs. Bon, et donc là aussi et je découvre quelque chose que j'avais pas prévu, c'est que il a une passion en fait pour les communautés paysannes, et là aussi tout se rejoint à un moment donné. Et il y a d'autres auteurs, d'autres autrices, Silvia Federici qui est la plus connue, et qui, dont je découvre qu'elle est très très proche de Maria Miss. Enfin bon, excusez-moi de faire un peu liens, mais c'est parce qu'en fait, je ne peux pas donner une chronologie, mais c'est juste pour dire que ils ont des rebonds. Enfin, je découvre qu'Henri Lefebvre a été très proche de Françoise Daubonne. Enfin voilà, moi, au départ, je ne sais pas qu'ils sont proches, et puis, enfin, pas toujours qu'ils sont proches, et puis je découvre à la fin qu'ils se relient. Et en fait, l'autre entrée, c'est effectivement Vandana Shiva et Maria Miss, parce que quand je découvre Françoise Daubonne, je cherche les textes écoféministes aussi traduit en français, et il y a ce livre-là qui a été traduit dans les années 90, et Vandana Shiva Maria Miss, et de là je tombe sur la partie des féministes allemandes, qui est et l'école de Bielefeld dont je parle, qui travaille la notion de subsistance. Et donc la perspective de subsistance, qui est un livre co-écrit avec Véronica Benholt-Thomsen et Maria Miss, je découvre que c'est le livre conclusif en fait de 20 ans de travaux de militantisme sur la question de la subsistance, dans lequel Vandana Shiva fait partie de cet événement. Je découvre, et ça me ce terme-là devient ce qui unit en fait tous les auteurs et les autrices que jusqu'ici, et puis évidemment les alternatives sur lesquelles j'ai travaillé, qui veulent échapper à la notion de production, pour qui la notion d'autoproduction n'a pas tellement de sens même, parce qu'en fait c'était chaque fois, c'est un réseau, c'est un groupe, c'est des communautés, et donc la notion de subsistance, ça permet de renvoyer aux sociétés de subsistance, et donc de relier aussi des auteurs comme Marshall Salins, qui a travaillé sur les chasseurs-cueilleurs, et Polanyi, qui a travaillé sur la notion de subsistance. Enfin voilà, ça fait une famille cohérente. Enfin, le mot famille n'est pas bon, mais une maisonnée d'auteurs et d'autrices cohérentes.
Mais c'est vrai que c'est les ramifications qu'on en voit énormément quand on lit, c'est la densité que tu restitues là. Et bien on va essayer de revenir peut-être sur à chaque fois... quelques points pour éclairer ce qu'on n'a pas lu. Est-ce qu'on revient sur le quotidien, on s'était demandé, tu as évoqué, mais par exemple, puisque ça part de cet éloignement maximal de l'État et de la recherche d'une autre invention du quotidien, mais justement tu définis bien que c'est pas le quotidien de Michel de Certeau, c'est celui d'Henri Lefebvre, ça serait intéressant de peut-être redéfinir exactement comment c'est envisagé, ce mot qui peut sembler évident mais en fait qui peut s'entendre de plein de manières, parce que on sent qu'il est ça concerne la question de la coupure des milieux, la dévaluation des attachements à un milieu, la déterritorialisation. Tu parlais d'Ivan Illich, notamment par la profession. Enfin, c'est ce qui amène aussi à envisager le travail autrement. Est-ce que redéfinir cette notion au travers des auteurs que t'as convoqués, de quotidien peut-être, et des possessions matérielles.
Et puis, pour prolonger la question, et avec une citation du bouquin, qui est une citation de Lefebvre, et qui je trouvais, c'est une des premières citations du livre, et je trouvais que ça éclairait un peu aussi la notion de quotidien, peut-être comment tu l'envisageais. C'est « L'image que le lecteur trouvera dans ce livre diffère de la métaphore admise. La vie quotidienne apparaît ici comme le seul nourricier. Enfin, »
Du coup, voilà. Ouais, c'est en fait, Henri Lefebvre, il définit la quotidienneté non pas comme une sphère, parce que parfois on peut confondre la notion de quotidienneté avec sphère privée ou sphère domestique, mais comme un niveau d'attention qui permet justement de baisser relativement la garde, et c'est comme à quelque chose qui fait que des choses nouvelles apparaissent mais sédimentent, et c'est ce niveau là c'est pour ça qu'il parle d'un sol nourricier, c'est parce que comme ça a sédimenté, c'est à la fois le lieu de la routine mais de l'invention justement, et de la métamorphose, et donc de la révolution. C'est vraiment, il n'y a pas de révolution sans sédimentation quotidienne, et elle s'actualise si elle devient quotidienne. D'où sa fascination aussi pour la commune, parce qu'il montre justement qu'elle s'est incarnée dans toutes les sphères de l'existence à l'échelle quotidienne et de façon populaire. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que ça décalait aussi, ça permettait de sortir de l'ornière sphère domestique d'un côté, sphère professionnelle de l'autre, puisque dans toutes les activités humaines, il y a donc de la quotidienneté et puis des choses qui font événement et qui sortent de l'ordinaire. Donc moi, ça, c'était un point assez important. Et du coup, si on reprend la question, c'est est-ce que... quelles sont les quotidiennetés? Qu'est-ce qui fait partie de nos vies quotidiennes et qui est en arrière-plan, en quelque sorte, ou sous nos pieds, et qu'on foule tous les jours sans trop s'en rendre compte? Et c'est ça qui apparaît saillant, en fait, c'est que on peut opposer deux types de quotidiennetés. Et là, je vais être volontairement tranchée. La quotidienneté paysanne, d'un côté, si on prend les sociétés de paysans-artisans, de paysannes-artisanes, d'un côté, et puis des quotidiennetés modernes urbaines industrialisées, pour un peu faire un autre bloc. Et Lefebvre, Illich, mais d'autres, les féministes qui m'ont intéressée à la subsistance arrivent au même constat, c'est que d'un côté, il y a une quotidienneté dans laquelle les travaux de subsistance sont visibles, et c'est pas un arrière-plan, ça fait partie vraiment du trajet ordinaire et normal. Et de l'autre, c'est soustrait de la vue, c'est un enfermement, même c'est enfermé, et carrément délocalisé même, en fait. Donc, de ce constat quasi phénoménologique, il y a des constats d'organisation sociale, en fait. Et d'un côté, il y a des groupes pour qui ça fait partie de la quotidienneté que d'être interpellés par les modes de production, parce qu'ils font, enfin, ils sont en ligne de... Enfin, comment dire, ils sont toujours présents, ils ne sont pas oubliables. Alors, ça ne veut pas dire qu'à parce qu'ils sont présents, qu'on va être plus attentif aux inégalités. Ce n'est pas du tout un enchantement des sociétés de paysans-artisans où effectivement, on travaillerait dans la rue ou dans une échoppe ouverte et tout d'un coup, on serait conscient des inégalités sociales, de l'esclavage dans les plantations était très visible et ça n'a pas pour autant donné lieu à... Donc, c'est pas exactement ça que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que comme c'est visible, il y a quelque chose de potentiellement irruptif. Malgré tout. C'est-à-dire que ça peut devenir et être embarqué, même puisque les personnes étant là, présentes dans cette présence-là, dans un mouvement révolutionnaire. Et de l'autre côté, c'est comment cette quotidienneté va être complètement oublieuse de toutes les petites mains de la fabrique de la quotidienneté. Ce qui fait que ce recouvrement complet des petites mains de la fabrique, bah ça conduit en fait à mettre de côté complètement la division sexuée du travail, la division internationale du travail. Et donc, une quotidienneté politique, puisque en fait, c'est le titre du livre, c'est c'est réinvestir toute cette fabrique-là de la quotidienneté comme un sujet politique, aussi bien des sujets des personnes qui la fabriquent que le sujet même de l'action politique, de ce qui doit être organisé, réorganisé, repris en charge, redistribué.
Oui, parce qu'il y a un élément que je trouve intéressant, juste pour compléter ça, mais quand tu parles de délégation, donc effectivement, de délégation à des tiers du travail, donc qui invisibilise la production et toutes ces choses qu'on voit bien, dans la coupure complète entre consommation et production, pour nous citadins, pour ceux qui vivent dans ces territoires-là. Et c'est aussi, je trouve, la notion de délégation à des tiers anonymes, que tu soulignes, et l'idée qu'on peut pas être, qu'il y a une impossibilité d'être concerné, autrement qu'abstraitement, mais de façon sensible, parce qu'il est délégué à des tiers anonymes. Parce il y a une façon de le refaire sentir qui me semble-t-il, est liée à Ivan Illich, mais je sais plus.
Oui, c'est lié à Ivan Illich, parce qu'en fait, peut-être que pour venir sur la notion de travail fantôme, parce que ça rejoint, c'est-à-dire qu'il repense l'aliénation dont parle Marx du travailleur. Qui se sent dépossédé de son travail. Et là, il va le décrire de façon en termes de subsistance, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement détaché de son travail, il est détaché du milieu de vie à partir duquel il peut travailler, il va produire, et d'où viennent les matières. Et donc, cette coupure-là, c'est aussi l'incapacité de refaire des circulations, en fait, pour remettre en branle, en fait, des formes écosystémiques de matières que je conserve ou dont je garde un bout et qui repartent, qui refleurissent, d'où le sol nourricier auquel pense Lefebvre, parce qu'il oppose beaucoup le travail des paysans qui travaillent en cycle et le travail mort de l'usine. Mais la question qui va avec, c'est celle de la déterritorialisation, qui est un gros mot mais j'ai pas trouvé de terme plus simple pour le désigner, mais qui est que le travail va être coupé du milieu, qui est à la fois un milieu de vie peuplé de gens, peuplé de matière, peuplé de non-humains plus qu'humains, peuplé de la maisonnée, qui est peuplé aussi de vie familiale également, et des proches. Et donc ce travail va être couplé de tout ce milieu de vie-là. C'est-à-dire qu'il va faire un grand déménagement, qui est travailler dans des bureaux, dans des lieux, dans des usines, qui vont être coupés par plein de paliers. Et cette déterritorialisation, ça a des conséquences assez importantes. C'est que si on se place du point de vue des sociétés de paysans-artisans, le travail est relié à des matières qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît, pas forcément de près. Hein, faut pas imaginer des trucs claniques, ça peut être une interconnaissance de très lointaine qui unit des villes et des campagnes, qui peuvent unir des continents même en fait, hein. Mais c'est des formes d'interconnaissance d'un côté qui fait que on sait d'où les choses viennent et où elles vont. Enfin, c'est un peu pour dire ça de façon plus simple. Et de l'autre côté, cet éloignement des distances conduit plus loin que ça, c'est-à-dire que ça devient une valeur démocratique de ne pas savoir d'où les choses viennent et où elles vont, et avec qui on le fait. C'est-à-dire que l'anonymat comme gage de neutralité du médecin, toutes les professions à talent, j'ai travaillé sur la police typiquement, la police, devient le gage de la mise en égalité de tous les citoyens qui eux-mêmes doivent être ne pas être reconnaissables et recommandables. Et c'est un changement complet en fait de paradigme de déambulation dans l'espace public en fait, c'est-à-dire que ne pas être reconnu ou désigné comme étant venant de quelque part devient le gage d'une citoyenneté pleine et entière. Et c'est un vrai... Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que c'est un problème. C'est-à-dire, le problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'on invente ce type de citoyenneté anonyme, s'opère lentement, sûrement, mais carrément, même je dirais brutalement, une disqualification totale au nom du clientélisme, du népotisme et du favoritisme, etc., de toutes les relations qui relèveraient de formes d'interconnaissance. Et donc là, ça veut dire que concrètement, des sociétés de paysans-artisans sont dévaluées immédiatement, comme si connaître... être recommandé par ou venir de quelque part, c'était dans la capacité d'avoir une relation équitable, juste, et être nécessairement patriarcale.
C'est ce qu'on dévalue sous ou l'esprit de clocher.
Voilà. Et donc, il y a un truc qui se fait, une sorte de binarité qui se met d'un côté esprit de clocher, esprit borné, interconnaissance, travail sur le proche, et de l'autre, citoyen du monde, urbanité. Je ne vais pas développer, mais c'est... Et du coup, ça a des conséquences très importantes sur la notion de professionnalisation. C'est-à-dire qu'un bon professionnel, c'est quelqu'un qui, donc, est doté de certifications universelles. C'est-à-dire qu'il est capable... il est capable, un bon architecte, un bon médecin, un bon... je ne sais pas, tous ces... peut agir en tout lieu. En toutes circonstances, et évidemment qu'il fait il adapte son savoir à la situation, c'est pas de... mais il est doté de ce fameux savoir universel. Et là aussi, ça va avec un autre processus, qui est que, du coup, le professionnel donc anonyme, en lien avec des gens anonymes et dont le savoir est universel, va s'opposer au savoir vernaculaire, qui lui est ancré quelque part, peut être issu d'une tradition et est opérant sur des gens de sa connaissance. Ce qui n'empêche pas, enfin, ce serait complètement absurde d'imaginer qu'un guérisseur ne serait pas capable de guérir quelqu'un d'ailleurs et hors de sa région. Du coup, ça crée... ou alors qu'une connaissance des arbres d'une forêt ne permettrait pas à ces forestiers paysans d'avoir une connaissance sur la forêt en général. Et donc, on a comme ça un appauvrissement complet du savoir vernaculaire comme un savoir tellement situé qu'il serait pas délocalisable, et de l'autre une élévation mythification du super spécialiste, de l'expert qui connaîtrait tout, quel que soit le lieu. Donc je pense que moi c'est un peu cette alors ce qui se passe, c'est que du coup les autrices et les auteurs qui m'ont intéressée, c'est que ils voient cette opposition là comme une aporie. Comment peut on peut être dans un nomadisme et une reconnaissance des peuples et de leur variation, et vouloir un ancrage qui nous fait un domaine de spécialité relié à un territoire donné. Il n'y a pas de contradiction, en fait, entre ces deux pôles. Et donc, c'est cette définition-là. Enfin, du coup, c'est ce que tous les auteurs et les autrices que j'étudie, que j'ai essayé de mettre en évidence. Et ça rejoint les alternatives que j'ai étudiées, où il y a énormément de passages, de turnover, de brassages, de gens qui viennent du cru, pas du coin, et qui, en même temps, ont ce geste de s'ancrer quelque part. Du coup, l'ancrage territorial relié à une connaissance professionnelle pouvant donner lieu à professionnalisation et, du coup, à une autre conception du travail, puisque c'est... Et donc une autre organisation sociale, puisque le travail de subsistance détermine sa distribution, l'organisation sociale et puis des égalités, des inégalités, c'est possible. Mm-hmm. Enfin voilà, ça.
Juste pour rester sur l'anonymisation des professions, une des choses qui m'avait marqué aussi dans le livre, c'est justement tout ce passage où tu décris très bien ce processus d'anonymisation. Et où tu dis que, en fait, avec le processus de certification, il y a une standardisation des gestes, ce qui fait que tout le monde est substituable et que, du coup, effectivement, tu ne croises que des inconnus qui répètent en fait un geste standardisé, tout à fait. Et c'est vrai que, en fait, quand tu moi, ça m'a fait, je le sais, ça fait un espèce de, tu t'en rends compte vraiment, en fait, quand tu essayes de décrire toutes tes relations que t'as eues, relations qui sont, toutes les relations marchandes que t'as eues, ce sont que des relations, en fait, tout à fait anonymes, et dans lesquelles, ce qui va être important, ça va être la marchandise qu'on va te proposer, mais... ça participe un peu du fétichisme de la marchandise, de placer la marchandise complètement déliée de ses conditions de production, et notamment des personnes qui le produisent et qui sont tout à fait anonymes et substituables.
Ah oui, c'est vraiment... C'est exactement ça, c'est comment l'opération marchande via l'abstraction de l'argent, en fait, parce que l'usage de l'argent peut ne pas être abstrait. Il y a d'autres usages monétaires, mais en tout cas l'entrée dans une économie où la monétarisation de la transaction devient majoritaire va de pair avec la création des fameuses sociétés anonymes, qui est un des fers de lance de l'organisation capitaliste. Et donc le capitalisme a besoin, pour rentrer dans cette monétarisation et donc qui conduit à la marchandisation complète des biens et des services, d'une cohorte de professionnels qui soient eux-mêmes pris dans un échange marchand de leur savoir et de leur aussi et de leur action sur la matérialité qui permet la transaction monétaire. Donc ça, c'est vraiment cette capacité là en fait, cette entrée dans l'économie monétaire et les conséquences, parce qu'on parle beaucoup de destruction relationnelle, etc., mais moi je voulais montrer le rouage non pas simplement sur le travail, mais sur la création d'un certain type de professionnel, donc d'un certain type de diagnostic sur le monde, parce que du coup quand on rentre dans cette fameuse transaction monétaire, on est complètement détaché, on peut être détaché du milieu de vie d'où les choses sont extraites et vont, et donc la segmentation du travail et des diagnostics fait qu'on délègue à d'autres et qu'on n'impute plus au fait d'habiter un territoire une capacité de connaissance et de diagnostic la vie même de ce territoire.
Et est-ce que c'est du coup la notion de subsistance qui te permet de... Parce que tu l'as définie à la fois, il me semble qu'elle permet de questionner le travail, le salariat, la façon dont ça s'organise, parce que ça s'oppose aussi à la maisonnée, au travail domestique. Après, on reviendra peut-être sur la question plus du lien, de la remise en question de l'émancipation féminine ou pas, mais plus le rapport effectivement entre subsistance et salariat, et aussi entre, ça m'a semblé intéressant, entre subsistance et qui n'est pas autonomie, autoproduction, autoconsommation, c'est finalement une une notion assez complexe.
Oui, alors c'est une notion, moi je pense qu'il y a le livre de, je vais pas, il n'est pas encore traduit, de Véronica Bennold-Thompson et Maria Miss, qui s'appelle Subsistance Perspective, donc une perspective de subsistance qui le définit vraiment bien. Et elles expliquent aussi que le terme de subsistance, c'est un terme qui est traduisible dans beaucoup de langues par ailleurs, et qui a un sens assez stable. Mmh. Et donc ça, c'est assez important. Et ça réfère à des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés de subsistance, qu'il ne faut pas confondre avec l'économie de la survie nécessairement. Mmh. Et donc, dans la notion de subsistance, il y a nécessairement un groupe social qui permet d'organiser la subsistance commune. Et ça permet de sortir de l'idée, le terme, je pense, le pire qu'on a inventé, c'est le terme d'autoconsommation. Je pense, parce que c'est quand même si on se consommait soi-même, et c'est faire, parce que l'autoconsommation, ça désigne donc, moi, ce qu'on pourrait appeler la subsistance, c'est-à-dire le fait de fabriquer soi-même des trucs au potager et de les manger. Et donc, on prend pour étalon, pour désigner cette opération, la consommation, qui serait devenue donc l'alpha et l'oméga de description du monde. Alors que quand on parle de subsistance, on relègue la notion de consommation comme un événement historique qui est problématique, et ça permet de rappeler qu'il y a des sociétés paysannes qui continuent d'être des sociétés de subsistance, pour qui la consommation, ça reste quelque chose de plus exceptionnel ou qui n'est pas une norme, et que pour plein de ménages, par ailleurs, la référence n'est pas simplement de dire « Ah bah ça me coûte moins cher que si je l'achetais », mais c'est « ça me je veux rester relié en fait à un type de, une façon de travailler qui n'est justement pas le travail marchandisable. Et je reste dans une économie de la circulation en nature. » Et donc, la question de la subsistance, ça permet de remettre au cœur les transactions en nature, en fait, entre les gens. Et du coup, moi, je me suis dit, le mot, comme souvent dit, auto-subsistance. Puis on va peut-être dire entre-subsistance, avec un tir entre les deux. Comme ça, c'est bien lourd comme terme, mais ça efface le terme d'auto. Et en plus, la notion d'auto-consommation, auto-subsistance, auto-production, c'est comme si on faisait par soi-même, pour soi-même, alors que tout ce que j'ai pu voir du côté des alternatives écologiques, mais aussi moi du point de vue théorique sur tout ce qui met en scène les sociétés paysannes et artisanales, c'est que c'est un groupe. C'est à minima un atelier. Une ferme, c'est certainement pas, malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui, un couple qui travaille pour c'est des maisonnées, des très élargies, des groupes domestiques, comme on dit. Et donc, et c'est pas pour soi. C'est pour un groupe élargi, donc y compris quand il y a transaction monétaire. C'est je pense que la notion de subsistance, et par ailleurs c'est une perspective, parce que c'est là pour reprendre Maria Miss, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut se réapproprier, et donc c'est une perspective politique. Et le terme aussi, ça permet de ne pas, enfin moi ça, enfin, et c'est comme ça aussi que Maria Miss va l'utiliser, c'est que ça permet d'englober plein de formats de réappropriation et de mise en commun du travail de subsistance. Alors que des termes autres pourraient... si je dis vivrier, par exemple, ça restreint vraiment au groupe domestique, la maisonnée. Et ça empêche de voir d'autres façons de mettre en commun la subsistance qui relèveraient plus de catégories de coopératives. Voilà.
Et par ailleurs, il y a l'aspect de que tu mets en avant du féminisme de la subsistance. Et on se disait à la lecture du livre, peut-être que c'était une manière aussi d'intervenir de déplacer en fait les grandes questions qu'il y a autour de l'écoféminisme, pour justement se centrer sur cette question-là, qui est la question de la subsistance, de la matérialité et du travail de subsistance, justement, et donc qui n'est pas un travail domestique, etc., etc. Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'était un peu...
une catégorie, peut-être plus, qui tranche un petit peu, enfin qui prend un peu que tu construis et qui prend un peu un chemin de traverse par rapport à l'écoféminisme, par rapport aussi au féminisme matérialiste. Enfin, finalement, tu as cité ces autrices et c'est le moment sûrement on pourra en dire plus, mais elles sont pour la plupart matérialistes, marxistes, Et toi, tu construis à partir de ça, enfin, tu déplaces des choses pour construire un peu.
Ouais, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a 50 ans d'éclipse de l'écoféminisme en France, depuis l'invention du terme par Françoise Domon et la tentative qu'elle a faite de créer des groupes croisant l'écologie et le féminisme. Et donc, comment faire en fait pour. On peut. Enfin, le livre de Reclaim, l'anthologie d'Emily Hache, a vraiment veillé à pluraliser d'emblée en fait l'écoféminisme pour ne pas l'associer à un versant plutôt qu'un autre. Et d'autre part, il se trouve que Silvia Federici a été énormément traduite en France, alors que Maria Miss, pas du tout, ou peu. Et en fait, il y aurait quelque chose. Et que de l'autre côté, en France, c'est ce qu'on dit le féminisme matérialiste qui a principalement, enfin, qui est le, on va dire, le féminisme dominant, en fait. C'est ces paradigmes qui ont vraiment pris le pas, aussi bien sur le plan militant que sur le plan scientifique. Et du coup, à partir de Silvia Federici, qui est partie sur un autre groupe militant qui est le salaire, qui a milité pour un salaire ménager, qui a été extrêmement critiqué en France parce que ça paraissait une essentialisation de la femme au foyer, alors que l'enjeu du groupe Wages for Housework, qui était au contraire déjà très intersectionnel, race, classe, genre, complètement étressé, et l'idée c'était de montrer que le salariat n'était pas une émancipation en tant que telle, qu'il fallait être en plus la prolétaire de son mari, la prolétaire à l'usine. Et de l'autre côté, Bell Hooks qui montre aussi qu'il ne faut pas dévaluer la sphère domestique qui peut être le refuge loin de l'activité domestique esclavagisée et puis très très bassement salariée de l'autre pour des femmes descendantes d'esclaves et qui se retrouvent dans cette manière-là de faire maison, et que donc pour elle, être à la maison, c'est un lieu safe, et pas le lieu nécessaire. Toutes ces influences croisées font que ça permet de mettre au jour un matérialisme marxiste qui ne pense donc pas le salariat comme une émancipation nécessaire, enfin, qui c'est pas, les deux ne sont pas. Ne vont pas nécessairement ensemble. Et deuxièmement, l'idée qu'il faut du coup s'intéresser aux matières, c'est-à-dire qu'est-ce que deviennent les matières, d'où viennent-elles, qui les fabrique, et donc penser division internationale du travail. Et ça, c'est une opération que et donc penser aussi aux paysannes, parce que ça c'est l'autre point, c'est que le féminisme matérialiste qu'incarne en France notamment Christine Delphi, c'est, elle va vraiment montrer que voilà, le travail, enfin, y compris les femmes paysannes qui sont dans ce qu'elle appelle l'autoconsommation ou l'autoproduction, se retrouvent aussi en position ancillaire ou exploitée de leur mari, sachant qu'elles travaillent sur une période spécifique aussi qui est le début de l'agriculture, à la fin des sociétés paysannes aussi. Et de l'autre côté, moi je voyais des historiennes, des anthropologues qui mettaient en évidence le pouvoir des femmes dans les sociétés paysannes, et donc qui contrevenaient en fait à cette sorte d'aplatissement en fait de la condition de toutes les femmes du monde, qu'elles soient paysannes, ouvrières, femmes au foyer, cadres en quelque sorte. Elles seraient toutes prises dans la nécessité de fabriquer le travail domestique, la fameuse double journée. Or, moi, les féministes matérialistes, enfin, qui s'appelleraient pas matérialistes, mais qui rentraient dans le débat sur le travail domestique, veillaient à faire des différences entre les classes sociales, les niveaux d'industrialisation et les sociétés, et quand même mettaient en évidence la spécificité des sociétés paysannes. Et ça, c'est un déplacement très très important. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je fais Je peux pas les appeler toutes écoféministes parce que le terme est pas, à part Françoise Dobon qui le revendique, une partie des historiennes états-uniennes dont je parle, Sylvia Federici de l'autre côté, qui se définit pas nécessairement comme écoféministe, bien qu'elle préface le livre clé, premier livre clé de François de Miami, ce qui se revendique du terme d'écoféministe. Tout ça, ça crée un monde et les féministes allemandes qui emploient le terme de subsistance pour définir leur groupe, en disant que, qui inclut aussi Vandana Shiva, ben ça m'a paru le terme le plus commode et le plus juste pour désigner cette façon-là de ne pas d'inclure dans la définition d'une action féministe et d'une action politique la prise en compte du partage du travail de subsistance, mais aussi qui inclut donc un milieu de vie, donc un milieu naturel. Parce qu'à partir de là, ce qui se passe, c'est que ce qui va pas être mis en périphérie de la réflexion féministe, c'est la nature avec qui va pas du tout être conçue comme les femmes seraient naturellement plus proches de la nature, mais comme des ressources, des matières à disposition qu'il faut transformer, parce que évidemment qu'il ne s'agit pas de prendre juste du bois, de le collecter, il faut le couper, il faut l'entreposer, il faut le chauffer, et que les poules, elles ne sont pas en liberté, et que c'est... Je donne des activités typiquement féminines dans la grande, dans l'atlas de la division sexuée du travail, c'est le petit élevage. Aller chercher l'eau, c'est pas... ce qui est aussi une mission vraiment beaucoup dévolue aux femmes dans beaucoup de sociétés. Et je parle du petit élevage, la confection aussi. Et donc, à partir de là, c'est une toute autre histoire de la modernisation, de l'industrialisation et de l'émancipation qui est racontée. Parce que, puisque le patriarcat qui va donc s'approprier la subsistance, la détruire, pour la remplacer par du travail de production industrielle qui se substitue point par point de façon quasi méthodique à tout ce qui pouvait être produit, enfin, et en circulation dans des sociétés paysannes sur des petits périmètres. Donc le travail industriel qui va, donc production-consommation, ce bout-là, se crée dans l'idée qu'il faut... Il faut détruire les capacités des sociétés à faire ce travail non marchand ou faiblement monétarisé. Voilà. Et donc, l'histoire du capitalisme, de l'installation du capitalisme comme de l'exploitation des femmes n'est pas la même parce que ça pose... Enfin, peut-être que je suis trop longue.
Non, en tout cas,
ça pose une question énorme, c'est comment en définir l'exploitation. Est-ce que l'exploitation, c'est de voir la place fonctionnelle des femmes dans le système de production en tant que productrice de travail domestique gratuit qui permet aux hommes et à d'autres femmes, parce qu'il y a du... mode de production domestique gratuit et rémunéré aussi entre femmes, de faire carrière, d'aller travailler pour dans la société industrielle et capitaliste contre argent. Est-ce que ça, c'est la seule manière, à la fois conceptuelle, mais le seul récit qu'on peut faire de l'exploitation? Et donc, de l'autre côté, il y a des historiennes de l'époque prémoderne, des historiennes des techniques, des historiens du Moyen-Âge, enfin, je pense à Ivan Illich, en fait, qui est un auteur qui est vraiment qui va enseigner l'histoire médiévale. Il va s'intéresser, de l'autre côté, Sylvia Federici, qui évidemment, avec son livre sur Caliban, qui va s'intéresser à la fameuse origine, moment de transition du passage du féodalisme au capitalisme. Et dans toutes ces histoires cumulées, revient quelque chose autour de la dépossession des sociétés paysannes et d'artisans de leurs moyens d'autonomie, de leur autonomie. Et là, non pas autonomie politique, autonomie en termes de subsistance, les deux étant indissociables, en fait. Comment cette autonomie va être entamée bout à bout. Et là, l'invention du couple hétérosexuel réduit à la famille nucléaire va être décisive. Et ça, c'est quelque chose que va raconter Ivan Illich, que va raconter Françoise Debonne, que va raconter Silvia Federici, alors que va raconter aussi Caroline Merchant, la mort de la nature, dont le livre vient d'être traduit. C'est-à-dire qu'il faut trouver un type d'organisation sociale qui segmente et qui détruit les communautés paysannes, en fait, qui, elles, sont larges, autonomes et assez organisées et qui unissent des millionnaires entre elles. Et donc, l'invention d'une neutre économique ou d'une sphère extrêmement réduite dans laquelle toutes les des formes de solidarité et de transactions non marchandes qui avaient lieu vont pouvoir du coup être contraintes à des formes de consommation, ben ça, rien de tel que le couple, le mariage avec juste un homme et une femme. Ce qui, pour n'importe quelle société paysanne et n'importe quelle communauté utopique, n'est pas viable. Et du coup, le confort moderne, en fait, hein, qui va individualiser de façon extrême le confort jusqu'au... au point qu'on arrive à faire passer comme émancipatoire n'importe quel appareil ménager, c'est mettre de côté que d'une part c'est hyper individualisé, pourquoi c'est pas mis en commun au moins à l'échelle de l'immeuble pour le peu de temps de minutes qu'on utilise ce moteur par jour, et ensuite ça repose sur tout un autre système qui était assez opérant quand même d'aide en nature en fait, qui permettait et d'aide de l'ensemble de la maisonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des femmes toutes seules avec leur équipement ménager qui se retrouvent dans ce foyer dépeuplé, mais il y avait des enfants de tous les âges, des personnes âgées de tous les âges, il y avait des animaux de différentes forces avec différents usages et différentes utilités, et puis évidemment l'ensemble d'un voisinage qui lui-même était très peuplé de toutes ces... Donc à partir de là, qui dit foyer très réduit, et ça marche aussi pour la production agricole, ça veut dire que la mécanisation s'impose comme évidente. Et cette réduction-là, elle passe par l'invention d'un foyer hétérosexuel, voire le mariage d'amour, par exemple, qui est au point même qu'aujourd'hui, avoir ses beaux-parents... Enfin, je dis pas qu'il faut revenir à ça, hein, mais je remarque, hein, ça veut dire que non, parce que c'est oppressif, etc., alors que dans les parentèles élargies, et les classes populaires le voient bien en vivant très proches les uns les unes des autres, parce qu'ils se rendent des sacrés services en nature, en fait, qui évitent de marchandiser tout simplement, ne serait-ce que la garde des enfants, qui est quand même assez énorme, et comme budget, mais aussi comme occupation, qui permet de travailler à l'extérieur, c'est que c'est pas possible en fait d'avoir de l'autonomie juste avec si peu de gens. Donc la réduction de la famille, ça veut dire une réduction aussi de l'espace vécu de production. Parce qu'on délègue à des professionnels anonymes, justement, on achète, et ça implique un tel travail d'ailleurs, enfin, d'éducation, quand on a démantelé les maisonnées, en fait, il a fallu habituer tout le monde à consommer, et donc c'est comme ça que moi j'ai essayé de faire une réinterprétation des sciences ménagères, en fait, qui sont des alliés, en fait, du capitalisme, pour apprendre aux femmes qui vont se retrouver toutes seules, en fait, dans un foyer, à devoir apprendre à consommer et à faire marcher plein de machines.
Parce que c'est ça, c'est contre-récit, du féminisme qui montre ce sur quoi t'es revenu, arrive même à développer, à mettre aussi en lumière l'évolution de ces femmes, de ce rôle de femme au foyer qui se charge d'autant plus, enfin, l'experte en art ménager, pour rebondir sur ce que tu disais, ou le care finalement aussi, avec la romanticisation et la sollicitude, finalement des délestés de certaines charges, c'est d'autres charges qui viennent s'ajouter aussi, c'est cette travail émotionnel, d'orchestre, etc., qui viennent transformer aussi, fixer la place au foyer et la transformer.
Parce qu'à partir du moment où les foyers sont des unités des lieux où on dort, où la famille restreinte se retrouve, et on assure un travail domestique de consommation qui fait que c'est un travail, parce qu'il faut transformer quand même ce qui a été acheté, il faut acheter, il faut stocker, mais encore une fois, je pense pas, enfin, la revendication d'avoir une cave et un grenier qui est juste indispensable à toutes les sociétés de transformation vivrière où il faut pouvoir stocker à différentes températures. Aujourd'hui, c'est un frigidaire qui est minuscule et en plus, c'est d'autres. Donc, c'est un travail domestique réduit en fait hein, par rapport au travail de subsistance qui lui implique un autre rapport à l'espace, un autre rapport aussi à la conservation. Et aux tâches, à la division du travail, cette réduction-là, ce foyer-là, comment dire, il va laisser toute la place, du coup, au travail d'affection. Alors, le problème, et ça, Sylvia Bidericci, elle a des mots assez extraordinaires là-dessus, où elle dit, mais depuis quand on va faire du travail d'affection et de care, le réduire à ça, alors que les ménages populaires qui peuvent pas se permettre en fait, parce que entre le travail qui est en des heures désynchronisées, la nécessité d'accomplir un nombre de tâches manuelles et domestiques sans délégation de ce travail, surtout pour des femmes monoparentales issues en exode rural et donc se retrouvant isolées dans des villes, etc., et qui donc doivent superposer complètement du travail de subsistance, du travail domestique de consommation et du travail de soins, elle dit c'est une vue de l'esprit issue de notre confort moderne, plutôt blanc, classe moyenne supérieure, que de séparer ces deux opérations. Et par ailleurs, ça tendrait à dire que le travail de subsistance n'est pas un travail de soins. Comme si savoir d'où les choses viennent et pour qui on les fabrique dans un rayon proche, c'était pas prendre soin de ses proches, mais aussi soin de la terre et de ses habitanteux et d'habitants dans toute leur variété et toute leur biodiversité. Et donc, il y a quelque chose qui va se faire autour de la déconnexion de ce qu'on pourrait appeler d'un soin environnemental, mais aussi d'un soin des proches. Pour le travail du care dont la matérialité doit être interrogée, c'est-à-dire pour que moi j'ai du temps pour faire du travail affectif qui de l'autre côté, à l'autre bout du monde me permet de consommer rapidement, de réchauffer rapidement mes plats, de faire en sorte que même mes enfants soient simples pour eux de réchauffer des choses quand je suis pas là et est-ce que j'y pense ? Enfin, comment est-ce que j'intègre ça à ma vie quotidienne ? On en revient au tout début, quand ça sort d'un phénomène observable, observé, intime, quotidien, ça sort des préoccupations politiques, mais aussi de presque, ça devient un problème cognitif quasiment. Parce qu'en fait, c'est pas possible aussi d'intégrer à ce point l'ensemble de la chaîne des dominations dans sa vie quotidienne. Moi, je parle à un moment du vertige, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'on a attrapé l'ensemble de la pelote de laine, une fois qu'on a tiré le fil du pullover et qu'on a compris qu'on avait dépossédé les foyers, les maisonniers du travail de confection artisanale qui était la base, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on refabrique ? Mais ces féministes de la subsistance, en tout cas, elles pense matière monde planétaire. Ça c'est quelque chose qui les... Elle pense... Alors, à l'époque, elle pouvait employer le terme de tiers-monde. C'était le terme qui était disponible. Femme du Sud. Moi, j'ai employé... c'est pas pour rien que Maria Miss, elle fait sa thèse sur les femmes indiennes à l'époque contemporaine. C'est la première thèse en allemand de sociologie sur les femmes en Inde. C'est pas pour rien que Veronica Belton Thompson, elle va travailler sur les femmes au Mexique, Claudia von Verloop, elle va travailler sur le Venezuela, et qu'elles vont évidemment avoir des liens avec Vandana Shiva. Sylvia Federici, elle va aller en Afrique, et donc elle va parler aussi de ce système d'accaparement des terres, de la mise en sorcellerie de ces vieilles femmes qui vont défendre des logiques de subsistance. Et Ivan Illich, de la même manière, il va travailler à à Porto Rico. Voilà, donc en fait, c'est pas une abstraction, c'est que ça fait partie des groupes que ces personnes, enfin, ces théoriciennes et théoriciens ont dans leur quotidienneté. À la fois théorique mais aussi militante. Henri Lefebvre, c'est pas, enfin, lui aussi, bon, il est plus âgé, mais il a fait sa thèse sur les communautés paysannes et justement les résidus des communautés paysannes avec des formes d'autonomie paysanne en termes de décision politique, et il va en voir les traces dans les communautés pyrénéennes qu'il connaît. Voilà, et c'est comme ça qu'il va remonter le fil.
Oui, c'est toujours anti-universaliste. Enfin,
ah ouais, il n'y a pas de...
C'est surtout ce dénominateur.
Ouais.
Et juste pour revenir sur ces contre-récits et sur le, enfin, c'est ce que tu disais, et ce qui, enfin, des traits saillants du bouquin et qui me semble très important, quoi, c'est ces écoféministes ou ces féministes de la subsistance. Mmh. Elles insistent beaucoup justement sur la puissance des femmes pendant ces... Et est-ce que tu peux un peu revenir dessus sur... sur notamment l'importance de, bah, par exemple, de réinterpréter la révolution, enfin le néolithique, de sortir d'une anthropologie, enfin d'une lecture des sources, un certain biais qu'il y a à lire les sources, d'interpréter les sources et de récolter les données, qui masquent ou qui invisibilisent à la fois le travail des femmes, mais aussi leur puissance dans leur communauté. Alors peut-être on va peut-être pas tout retracer le contre-récit, mais peut-être choisir un moment ou quelque chose qui te semble important pour justement montrer qu'en fait, une lecture, enfin qu'on peut avoir une autre lecture et de cette histoire, et qu'en fait, c'est important en fait. Il y a une importance politique à faire ça, quoi.
Il y a une importance politique parce qu'en fait, de façon, elles ont pris à bras le corps dans les années 70, il y a l'idée qu'il faut sortir de la science patriarcale. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont fabriqué le savoir, qui, aussi bien anthropologique, mais aussi en sciences dures, en histoire, et qu'il faut donc réévaluer, repartir des sources, les relire, et donc se lire entre les lignes, savoir relire entre les lignes. Et c'est ce qu'elles vont faire, en fait, parce que c'est à la fois faire œuvre antipatriarcale, mais aussi admettre que, est-ce que la science se fait nécessairement à l'université ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose... Les féministes ont des cercles de parole, enfin, ces fameux cercles de conscientisation qui sont extrêmement importants, qui permettaient à des femmes de différentes provenances, en fait, d'échanger et de faire des formes d'horizontalité. Et ça, elles vont le faire. Elles vont dire « je ne suis pas universitaire ». C'est ce que fait Françoise Debonne, mais je vais lire des textes d'archéologues et lire des éléments genrés que l'archéologue n'aura pas vu. C'est ce que fait aussi Vandana Shiva quand elle essaie de définir des archétypes indiens. Et il ne s'agit pas de repartir d'une mythification, mais d'interroger la question de la mythification, justement, c'est ça qu'elles vont dénoncer et dénoncer comme mythe, la mythification de l'universalité de la domination masculine en tout lieu, à toute époque. Elle parle d'une définition historique du patriarcat. Si le patriarcat a une origine, il a donc une fin. Donc ça a une vertu politique. C'est-à-dire que ça permet de aussi, très étrangement, de sortir des formes d'essentialisation en fait, du patriarcat, qui serait tellement le seul système que les sociétés connues et observables auraient mis en place, que l'avenir serait de destituer, et qui pourrait quasi conduire, enfin, si je deviens, comme à le rendre quasi instinctif. Alors elle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le patriarcat, ça n'a rien de premier, en fait, ni même d'originel. Et la bicatégorisation en hommes et femmes non plus. C'est quelque chose d'autre. Et la hiérarchie, Alors, elles vont jusqu'à contester le principe même de hiérarchie, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de la domination masculine et le patriarcat, il y a l'idée subreptice que donc toutes les sociétés seraient hiérarchiques, même les sociétés dites égalitaires auraient des formes, parce qu'il y a quand même des sociétés dites égalitaires de chasseurs-cueilleurs, chasseuses-cueilleuses, qui seraient moins hiérarchiques, sans classe, enfin tous les termes. Et donc, elles y vont avec une allégresse et une impétuosité dont je voulais saluer en fait le pari épistémologique et tout, parce qu'il y a par ailleurs des chercheuses confirmées comme Eleanor Leacock qui est une anthropologue, il y a des historiennes des sociétés paysannes aussi qui viennent valider ces interprétations, mais ce à quoi elles vont le plus s'attaquer, je trouve ça assez important, c'est le mythe du chasseur. Voilà, c'est la question du chasseur, en disant un chasseur qui part sans vivre, il peut pas partir à la chasse, et toute viande chassée qui n'est pas immédiatement ou rapidement transformée ne peut servir qu'à alimenter le chasseur sur place, mais puisqu'il faut chasser, on chasse loin du groupe domestique, même fut-il nomade, il y a quand même des choses à parcourir. Et donc elle destitue le mythe du chasseur, qui ne serait donc rien déjà sans les cuisiniers et les cuisinières, sans la transformation. Et par ailleurs, la grande chasse versus la petite chasse, aussi c'est une façon. Et par ailleurs, ça met en évidence le principe que les premiers êtres humains seraient forcément dans un régime carné, quid de la cueillette, des formes d'agriculture, de céréaliculture semi-sauvage, des formes de jardinage qui sont pas forcément le potager tel qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont des façons de cueillir les plantes de sorte à ce qu'elles repoussent de façon plus forte aux mêmes endroits qui permettaient à des groupes de chasseurs-cueilleurs, etc. Donc tout ça, c'est une manière de réinterpréter les biais endocentrés, mais aussi productivistes, des biais qui dévalueraient la place de l'intégralité des travaux de subsistance dans la manière dont les sociétés sont organisées. Et donc si on pense que le travail de subsistance, qui donne une part énorme à tous les travaux de cueillette, de petite chasse, d'entretien, de confection, et qu'elles sont complètement interdépendantes, la question de la place des femmes est totalement différente. C'est-à-dire que les femmes occupent une fonction notamment de transformation vitale, d'une part, créatrice d'une matière qui, sans leur transformation, n'est pas... voilà, le cuir ou la laine ou le lait même, voilà, il faut en faire, on boit pas la mamelle, quoi, voilà, il y a quelque chose de tout un travail de la poterie jusqu'au transport, voilà, c'est un truc très très important, mais c'est aussi dans leur travail qu'elles vont avoir de gestion des stocks et des subsides, justement, et ça c'est un travail énorme qui veille précisément à ce que il y ait pas d'accaparement de la subsistance par des hommes, par un groupe social, et que l'ensemble du groupe va pouvoir avoir accès aux subsistances dont il a besoin pour lui-même. Et ça, je trouve que ça permet d'éviter le problème des termes de travail domestique, de foyer, d'autoproduction, de de plaquer d'une façon, notre organisation moderne, contemporaine, industrialisée, sur des sociétés dans lesquelles ce travail-là n'est pas une petite affaire. C'est pas un travail d'évaluer, c'est voire même un travail qui accorde un énorme pouvoir. Et donc la puissance des femmes, elle vient de là. C'est aussi une puissance du travail de la reproduction. Et de la capacité du renouvellement des matières. Je pense que ça, c'est assez important, parce que tout le travail de la naissance, du pouvoir de la réappropriation, du pouvoir d'avorter, du pouvoir d'accoucher et de ne pas accoucher, du pouvoir de la domestication des animaux, de savoir tout ça dans l'histoire du néolithique, mais ça va plus loin dans l'histoire des sociétés paysannes, c'est quelque chose qui est à la fois vécu, enfin réinterprété de façon historique, anthropologique, théorique, mais aussi à l'horizon, comme l'un des enjeux majeurs du patriarcat capitaliste. C'est-à-dire que ce savoir-faire de la reproduction, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on passe par la matière pour se renouveler. Et elles vont, enfin c'est pas pour rien que c'est des féministes allemandes en fait qui ont aussi dans mon corpus qui travaillent pas mal cette question-là, mais toutes, hein, Silvia Federici, Anne Oakley, vont s'intéresser à la question de la naissance alternative aussi et de la reproduction. C'est parce qu'il y a derrière, il y a l'idée que l'appropriation du pouvoir de la naissance, mais du savoir-faire de la naissance et la marchandisation de l'acte de naissance, comme une, parce que c'est ça le corollaire de la médicalisation de la naissance. C'est pas juste on sauve des vies, c'est qu'aussi on en profite pour faire un acte marchand, et que les types de technologies qui vont être répandues, ça va être des technologies qui peuvent faire l'objet d'un marché, au sens marché économique, à commencer par la péridurale, les épisiotomies et la césarienne, voilà, qui sont des actes chirurgicaux. Et donc, tout ça, c'est des marchés et qui donc vont s'opposer à des savoir-faire vernaculaires. Et ce qu'elles veulent dire par là, c'est qu'en en ligne d'horizon du capitalisme, il y a l'appropriation du pouvoir de reproduction. Et donc, elles pensent au trafic des OGM, au clonage. Enfin, elles ont cette image des expériences faites sur le vivant qui permettrait de se passer du vivant, en fait, pour ou de rendre la reproduction comme d'en faire un marché, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle dénonce, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'en font pas « Non, mais nous, les femmes, ou les plantes, on serait essentiellement des reproductrices. » Enfin, c'est pas ça qu'elle dit. C'est qu'il y a un savoir-faire de la reproduction qui fait que, encore une fois, on ne naît pas... enfin, c'est un savoir-faire, au sens... c'est des techniques. Et donc, elle s'intéresse à la substitution de certaines techniques, pas d'autres, au cumul des mondes aussi ou pas. Et encore une fois, est-ce que pour faire passer des savoir-faire médicaux, on en vient ultra-industrialiser, on en vient à éradiquer des savoir-faire autres, qui vont être... présentés comme autres, voire même comme dangereux, parce que... voilà, donc elle, c'est plus cette interrogation-là, en fait, sur...
ouais, la dépossession.
La dépossession totale, en fait, ce qui fait qu'on ne sait plus... ouais. On ne sait plus garder ses semences, on veut les acheter, voilà.
Ouais. Peut-être le retour, justement, s'interroger sur ça, comment est-ce que... revenir à des savoirs vernaculaires, alors du coup, finalement, ça passe par quoi? Ça se décrète pas, c'est créer du collectif qui permet des formes de réciprocité. Et de, finalement, on peut se demander un peu, quoi. Si c'est ça comme visée, comment...
Ouais, il y a plein de... Enfin, moi, je trouve que l'important, et c'est un peu la démarche qu'avaient les alternatifs écologiques que moi, j'ai pu voir, c'est qu'ils aient pas... ils étaient à la fois dans l'art, une forme de radicalité de la perspective, au sens où, secteur après secteur, ils activaient des formes de réappropriation collective des moyens de subsistance, en augmentant l'échelle, ou en partant d'une échelle plus grande, mais qu'en même temps, parce que c'est peut-être le fait d'avoir fait des trajectoires de vie, et d'avoir vu des conversions à des âges variés, à tout âge en quelque sorte même, c'est qu'il faut partir du palier où on se trouve, ne pas avoir un horizon idéal énorme d'un biorégionalisme par exemple, ou d'un municipalisme libertaire, pour reprendre des termes de Bookchin, avec la mairie par exemple, ou le conseil municipal dans lequel avec qui on est en interaction et qui est très 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 loin par exemple de ce genre de problématique, et un État, n'en parlons pas, qui serait encore à des années-lumière de cette capacité de redonner aux régions ou aux municipalités davantage de pouvoir pour que les communautés d'habitants reprennent les moyens de contrôle aussi de ce qui les concerne directement. À constater ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? Par quel rouage on commence? Et du coup, j'aimais bien, j'ai voulu développer pas mal de théorisations ou de formes politiques très différentes. Et il y en a une qui m'intéresse, que j'ai pas mal développée, mais qui est Gibson Graham, que c'est des Australiennes économistes géographes qui sont des activistes aussi, et qui ont développé une perspective vraiment, vraiment passionnante, parce qu'elle part du principe qu'il faut commencer là où on est. Elle s'intéresse pas du tout, en fait, au niveau biorégional, parce qu'elle part du principe que toute population sur un territoire dont elle ne connaissent pas encore les limites, mais que toute personne dispose dans son espace-temps de portions d'espace-temps qui peuvent être soustraites à l'économie capitaliste. Soustraites de façon un peu différente. Il y en a qui peuvent être soustraites de façon plus radicale, mais en tout cas, que ce soit du don de temps, que ce soit une activité en tant que telle, en fait, qui sera vivrière ou marchande, mais dont on pourrait imaginer qu'un bout serait reversé à un groupe qui, lui, essaierait de se soustraire du capitalisme. Elle propose, en fait, de faire des enquêtes de recensement de toutes ces initiatives qui prennent des formats très variés sur un territoire donné à partir de personnes qui seraient assez implantées dans des réseaux sur place. Et c'est pas elles qui font l'enquête, et que ces personnes clés sont à même de connaître les gens et de prendre des personnes qui sont à cheval sur plusieurs réseaux. Et à partir de là, on est en train de créer une communauté, en fait, qui vient, en quelque sorte. Mmh. Elles ne cachent pas leur référence à Agamben, etc. Et qui est qu'on ne peut pas savoir encore quelle forme elle va prendre, mais l'activité de recensement va la produire, cette communauté-là. Et ça permet aussi d'avoir des opérations de comptage, de quantification,
de visibilisation
de l'énormité de ces portions mises bout à bout, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'équivalent monétaire éventuellement, de technique, de réseau social activé. Et donc, elles font des emplois du temps. Ça peut même permettre de faire des emplois du temps coordonnés. Et je pense que ça, je trouve que c'est... Elles ont une idée féministe, en fait, au départ, qui est la grande puissance du féminisme, et qu'il est il est potentiellement partout. Si on dit qu'il est dans... On prend les rôles de sexe, on peut dire qu'il est dans autant de femmes, par exemple, mais aussi de leur conjoint pro-féministe qui pourrait s'approprier ce type de cette égalité-là. Et donc, cette diffusion diffuse, justement, au sein des foyers, l'air de rien, parce qu'il n'y a pas de révolution féministe s'il n'y a pas de transformation au cœur des pratiques quotidiennes, justement. C'est aussi quelque chose qui est potentiellement une transformation sociale d'ampleur. Ça a été aussi, moi, mon point de départ, en fait, d'avoir d'étudier les trajectoires, notamment de femmes qui ont des trajectoires atypiques, enfin minoritaires, qui prennent des chemins de traverse, et qui, à un moment donné, font groupe, toutes ces femmes qui, tout d'un coup, se mettent à aller sur le marché de l'emploi dans des métiers masculins. Au départ, elles sont très peu, puis après, elles deviennent plus nombreuses. Donc, il se passe bien quelque chose dans des rouages qui sont levés au cœur des socialisations différentes. Et elles prennent vraiment ça comme manière de faire. Et à partir de là, elles déplacent la question de la biorégion, qui est pourtant une région que je trouve très importante, parce que du coup, ça fait Gibson-Graham, elle passe pas la question écologique au cœur, que d'autres commenceront par définir une biorégion avec un système avec des bassins versants. Et elle d'abord, et à partir de là, on peut revenir aux ressources à proximité et aux réseaux d'interconnaissances qui permettent de refaire biorégion, même si c'est pas dans la biorégion au sens géographique du terme. Et ça nous permet de revenir à la proposition de Magnaghi, que je trouve aussi vraiment intéressante, sur le biorégionalisme, qui est ce marxiste opéraïste italien qui définit les biorégions aussi, et qui dit aussi qu'il faut partir des espaces urbains tels qu'ils sont pour de là revenir aux campagnes. Et donc repenser la ville et la campagne en lien. Non pas la campagne forcément cohérente, parce qu'il se peut que la campagne, comme il n'y a plus les ceintures maraîchères, il se peut qu'elle soit plus éloignée. Mais en tout cas, repenser la circulation des deux et refaire des constellations, en fait. Et c'est ce qui se passe dans les alternatives que j'ai pu voir quel que soit le qualificatif qu'on puisse mettre derrière, alternative autonome, alternative écologique, alternative radicale, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est que ça crée des liens entre des groupes qui sont dans des campagnes et des groupes qui sont en ville et qui vont refaire
Ouais, c'est des inventions de circulation.
Ouais, refaire des circulations. Alors c'est pas forcément, ça fait de la voiture le meilleur allié quand même malheureusement du dispositif, mais l'écologie a trop se centrer sur la question de la motorisation, du bilan carbone, se pose pas la question de comment on recrée des groupes qui ont des formes autonomes, sachant que à l'endroit où on habite au plus proche, il se peut qu'on ait un voisin qui est rurbain, cadre, qui fait de l'écologie sans, qui est pas du tout écolo, des personnes d'extrême droite. Il faut, et que surtout les terres à proximité appartiennent à un agriculteur qui possède 1000 hectares ou qui loue 1000 hectares dont on n'a pas l'usage un tissu, enfin des grandes enseignes qui vont prendre tous les ateliers disponibles aux abords des villes. Donc en fait, on est face à un parcellaire complètement préempté dans lequel les acquisitions foncières ne sont pas possibles, des mairies qui pourraient mettre des ateliers municipaux ou des terres, des communaux à disposition qui ne le font pas. Donc il faut bien qu'on recrée des terres mises bout qui se relient les unes entre elles parce que il faut à proximité immédiate c'est quasi impossible sauf maintenant dans quelques lieux où il y a une densité suffisamment forte d'alternatives où ça a commencé d'abord par peu puis ça s'est ils ont comblé les trous au fur et à mesure et là ça fait des espaces cohérents. Donc c'est pour ça que la question la motorisation c'est une chose mais en transition. Enfin, quand on est en train de reconstituer des communautés cohérentes, il faut bien les relier, quoi. Ouais. C'est voilà, faut trouver des. Donc c'est pour ça que c'est pas, enfin la comptabilité carbone pour moi elle est moins intéressante que quelle portion d'espace-temps qu'on peut soustraire au capitalisme on peut mettre en lien.
Oui, c'est ça, c'est vraiment une maisonnée espace-temps. Enfin, une maisonnée,
et même si l'espace et le temps il est un peu grand.
Distendu.
Sur justement la catégorie d'alternatives que vous utilisez pour qualifier toutes ces soustractions au capitalisme, elles sont, à la lecture, on se demande si, est-ce que sous le terme d'alternatif, est-ce qu'on regroupe pas des choses qui n'ont pas grand-chose à voir ou même qui sont opposées et du coup... Comment à la fois effectivement montrer que que ce n'est pas rien quoi, rien de se soustraire, d'essayer dans des parcours de vie plus ou moins différents de se soustraire du capitalisme, mais à la fois que il n'y a pas d'unité déjà là quoi entre toutes ces personnes, qu'il y a des divisions, qu'il y a des visions politiques qui sont quand même assez différentes, des moyens d'action aussi qui sont différents, etc. Et à la fois, donc ça c'est le premier point sur un peu sur la est-ce que ça recouvre pas des divisions en fait, voilà. Et deuxième chose, est-ce que aussi, comment cette catégorie là, elle peut se, comment ces personnes là, elles peuvent faire en, comment ça s'articule avec les dominations structurelles qui par ailleurs continuent d'exister, etc., Bon, reste la question, mais...
Ouais, bah ça, je pense que c'est une question dans le deuxième volume, en fait, de Quotidien politique. Il va y avoir un deuxième volume faire une ethno-comptabilité, une micro-enquête sur, à partir de paysans boulangers qui vivent en yourte. Et à partir de là, de tout leur réseau d'entraide sur une vingtaine de kilomètres, mais aussi de leur voisinage. J'ai pris ce cas-là que je vais hyper détailler pour montrer comment des luttes frontales, et de l'autre des luttes feutrées vont se coordonner. Et moi, je voulais donner à voir là par cet exemple, c'est typiquement des personnes qui vont, par exemple, ne pas aller à Notre-Dame-des-Landes, qui sont tellement dans une logique de réappropriation. De leurs moyens de production, à la fois dans la pluriactivité paysan-artisan, avoir une place de marché, faire l'autoconstruction, etc., que pour tenir localement leur position, qui est très vulnérable, étant donné tous les problèmes administratifs qu'on peut leur faire, la répression administrative en fait dont on parle pas beaucoup mais qui est hyper importante, la pression aussi locale, hein, de voisinage qui fait qu'il faut apprivoiser aussi des personnes pour ne pas pour passer pour des rendre cette alternative là sérieuse et non menaçante. L'acquisition foncière de terre aussi qui est une bataille sans merci, de militer localement à la Confédération paysanne locale pour voilà, faire entendre sa voix de producteur qui veut pas de subvention de la PAC, par exemple, parce qu'il veut pas être dans ce système-là. Donc ça, c'est des choses à tenir. Des labellisations alternatives départementales du type nature et progrès. Donc ça, c'est des modes de militantisme très locaux. Et comment, dans ce groupe-là, il y en a qui vont aller militer de façon plus confrontationnelle, prêter main forte dans des chantiers à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui est trop loin, en fait, de leur sphère quotidienne, mais aussi d'une sphère militante qui est totalement aspirée aussi par des questions locales. Il y a des luttes, donc ils vont, voilà, sur leur stand, donner un flyer pour inviter à reprendre des terres à Notre-Dame-des-Landes sans jamais y aller. Mmh. Et ça, je pense que... Et de l'autre côté, à Notre-Dame-des-Landes, je vais retrouver des personnes que j'aurais vues sur des différentes enquêtes qui auront fait pour eux, ça va être un grand, enfin, de s'extraire en fait. C'est pas toutes les saisons où c'est possible. Il faut, c'est une grosse organisation que de pouvoir y aller. Et donc, je voulais montrer ces deux formats d'action directe qui sont pas du tout les mêmes et qui pourtant sont assez interdépendants parce que c'est eux, enfin. Très interdépendants. Et donc, il y a une forme de délégation, en quelque sorte, réciproque, typiquement. Et donc ça se retrouve dans plein d'autres lieux où il y a toutes ces alternatives-là qui, justement, ne vont pas s'appeler alternatives parce qu'elles peuvent être en conflit, elles peuvent s'opposer, même les alternatives, il y en a qu'on peut appeler les alternativistes, les alternos, ou de l'autre côté, il va y avoir l'idée, mais enfin, c'est sympa de faire des collectifs, mais moi, je me tue à faire le maraîchage, et puis là-bas, ils ne sont pas capables de faire un potager alors que ça fait 20 ans qu'ils sont installés. Enfin, des tas de choses comme ça qui... Donc, il y a des peurs... aussi du passage à l'action qu'on pourrait dire l'action directe, tout simplement, hein, parce que il y a des groupes qui font un tel travail pour s'implanter localement, obtenir le champ de la commune, donc je pense qu'il y a des impossibilités d'agenda et de stratégie politique réciproque, mais qui vont se crée dans des formes d'interdépendance quasi économique en fait, et pas simplement politique. Et ça se fait sur le long cours. Ça peut être, il y a des déplacements de population aussi qui rebattent les cartes, et des prêts de matériel qui vont se mettre en place, et donc ça permet, quand on fait des analyses plus territorialisées, de un peu moins radicaliser des frontières militantes qui, sur le plan pratique ou sur certaines actions, par exemple, vont s'unir alors qu'elles peuvent être se discréditer les unes les autres. Et je trouve que c'est tout l'intérêt, en fait, de passer à une territorialisation aussi de l'action politique. Et à un moment, je parle de topographie, toponymie de l'action, et que c'est presque parfois plus simple de parler de lieu, de dire, voilà, moi je veux dire le Larzac, Notre-Dame-des-Landes, Tarnac, le plateau de Mille Vaches, les Monts d'Arrée, pour parler de la Bretagne, la Drôme, enfin voilà, il y a des tas de termes, géographiques comme ça, dont on sait qu'ils recouvrent des mouvances en fait différentes, mais qui vont quand même partager un même territoire, donc des causes communes.
Et aussi, enfin. Tu insistes beaucoup aussi sur le fait que ça revient un peu à la question du vernaculaire et aussi le fait que c'était une question, enfin il y a une question de que ce que nous incite à faire le féminisme de la subsistance, c'est aussi une question d'une attention à notre quotidienneté, c'est certain, et puis à la matérialité, enfin, une espèce d'écologie sensible qu'il faut essayer de...
Ouais, ça c'est un point important, c'est parce qu'en fait, quand on se pose la question de repeupler le monde de matière avec des visages, donc de gens qu'on connaît, ou de gens qu'on connaît, qui connaissent, c'est lourd. Enfin, je voulais aussi venir à cette... revenir aussi à l'un des éléments de pensée de l'émancipation par les féministes, qui est celui de l'exode, justement, l'exode rural, de quitter la communauté villageoise pour l'anonymat des villes. Ça a été une libération mais énorme, justement, pour s'extraire de la domination patriarcale, d'inceste, de violence domestique, d'exploitation, de non-reconnaissance, d'impossibilité d'agir, parce que quand il y a une division sexuelle du travail aussi assez forte pour que les communautés, les groupes routinisent leur action, bah, ça fait que on peut pas faire... Enfin voilà, ça a permis une extension aussi des tâches. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte d'un point de vue féministe, mais aussi d'un point de vue sensible. On ne relocalise pas... Enfin, il y a une lourdeur inhérente à la relocalisation de la matière et donc des attachements qui peuvent être du dégoût. De la... Et y a un... Et donc ça, c'est... ce poids-là, il doit, pour le dire autrement, l'usage, c'est, simple, c'est bien de parler de reparler de la valeur d'usage, mais l'usage, ça use. L'usage, ça, c'est aussi l'usure sur les corps, sur des personnes aussi. On parle beaucoup de gens qui ne s'entendent plus, des manières de faire qui deviennent incompatibles. Et donc, pour moi, repenser la valeur d'usage, c'est repenser de façon absolument indissociable la sortie radicale de la valeur d'usage, c'est-à-dire pouvoir s'extraire au plus vite des communautés relocalisées, quoi. Et donc, on ne peut pas repenser la sédentarité relocalisée, on ne peut pas le séparer d'un nomadisme comme mode de vie. Et c'est même... Ça permet aussi de revisiter les sociétés paysannes et de cesser de les considérer du reste comme des sociétés hyper sédentaires. Il y avait des migrations saisonnières pour des travaux des champs. Toute l'Île-de-France et à ces travaux des champs, la Beauce qui est complètement dépeuplée. Il y a plein de travailleurs saisonniers, travailleuses paysans qui descendent faire la céréaliculture parce que chez eux la saison est plus lointaine et plus tardive, et que donc les travaux de la terre, en fait, c'est des travaux aussi saisonniers qui impliquent des circulations y compris quand on étudie l'autochtonie dans les villages et qu'on voit la sociodémographie des villages, Martine Segalen avait fait ça, elle montrait que ne serait-ce qu'en Bretagne, tout le monde changeait tout le temps de ferme en fonction de l'augmentation du groupe familial, et que donc y avait une grosse circulation. Donc il ne faut pas non plus essentialiser l'autochtonie immémoriale et immémorielle. D'une part, et d'autre part, en termes de des alternatives que j'ai pu étudier, quelle que soit pour le coup la mouvance, il y a toujours, et ça c'est, je le montre dans les articles que j'ai déjà commencé à publier sur ce cas que j'ai appelé Valonde, à Valonde, où il y a une part irréductible de sédentaires et une part irréductibles de nomades qui vont et qui viennent et qui ne cessent d'aller et venir, et les uns ont besoin des autres. C'est absolument une interdépendance importante, et il m'a semblé que cette façon-là de faire société était vitale, et qu'on ne peut pas penser à la relocalisation sans un appel absolu à des lieux de nomadisme radical qu'on n'a pas. Enfin, il n'y a plus de forêt. Enfin, voilà, on est soit dans la propriété, soit dans des terres. Il faut avoir un camping-car en bonne et due forme. Je ne parle même pas des gens du voyage qui n'ont pas des aires à disposition. Et qui soient des lieux qui ne soient pas juste eau, électricité, eau courante, mais des lieux de capacité aussi, d'usage de la terre. Mmh. Parce que ces personnes, ces peuples nomades, c'est pas juste je pars avec ma voiture et mon porte-monnaie, c'est je suis capable de trouver des ressources naturelles non polluées à disposition, et ça aussi ça fait partie du cortège. Et c'est pas pour rien que dans tous les lieux collectifs, c'est des lieux que j'ai pu voir, il y a un endroit où on participe du coup à la vie du collectif à ce moment-là, qui est pris, et puis il y a accès à une rivière, à une forêt, à un potager, et puis on donne le coup de main, on prend ce qu'il faut, et puis on repart, quoi. Et ça paraît une sorte d'utopie, voilà, c'est une façon de voyager. Alors après, ça peut être formalisé d'une façon, voilà, il y a le woofing, par exemple, qui est un point d'entrée pour beaucoup d'étudiants. Pour beaucoup de jeunes, en fait, qui commencent par là, puis après, qui voient qu'ils n'ont plus besoin de la structure telle qu'elle, et que ça devient un mode de vie, une façon de militer. Et puis Notre-Dame-des-Landes, par exemple, typiquement, a beaucoup utilisé cette capacité des gens à libérer 4 jours, à partir, et à ne rester que quelques temps, et pourtant à tenir un lieu qui, en dépit des allées et venues... Maintien. Alors on en arrive aux dominations. Pour des dominations structurelles, c'est que je pense que c'est ça, c'est vraiment une des capacités de cette capacité du nomadisme. Ça permet aussi au groupe de ne pas figer la domination, parce que les gens s'en vont. Voilà, plus il y a de lieux d'accueil,
plus ça se
fait. Voilà, il y a quelqu'un qui s'institue comme chef, il faut bien être chef de quelque chose, donc de gens. Alors, du coup, la propriété, ça devient un problème quand même. Parce que ça peut être celui qui possède la terre, ou le groupe qui possède le lieu. Et donc, ça la terre en mettre des moyens de terre en commun, c'est pas rien. D'avoir des terres non appropriables.
Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on...
Il me semble qu'on a fait...
Est-ce qu'on finit sur une petite citation ?
Un bon panorama. Ah bah vas-y, petite citation. Parfait.
Alors, il s'agit d'aller au bout du programme féministe d'extension de la charge immense d'embrasser le monde en étendant la capacité d'attention à une grande diversité d'êtres et de matières qui nous permettent de vivre en refusant le principe de spécialisation extrême qui conduit à la perte de vue l'ensemble des cycles de vie. C'est une qualité d'attention qui doit être redistribuée à toute chose.
Oh bah merci.
Conclusion, merci beaucoup à toi pour cette discussion.
Merci beaucoup. Je pourrais dire que la dernière difficulté, sauf deux fois, une fois enfant dans le bois.